RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story avec Sandrine Tégan, maître Sandrine Tégan, avec aujourd'hui Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie. Et puis nous sommes avec Joël Dagosséry, la coach de vie. Je vais vous faire une petite confidence.
Arrêtez de balancer.
Je vais vous faire une petite confidence à la pause. Il y a une tradition, c'est Joël, elle va toujours s'acheter des petits bonbons.
Non. Voilà.
Sauf que là, on est plus dans le même studio où nous sommes habituellement. On va le retrouver dans 15 jours, notre studio habituel. Et on est un peu plus loin de la machine à bonbons. Et donc là, Joël, elle s'est dit, j'ai le temps d'y aller. Et non, mais je l'ai laissé partir exprès, sachant qu'elle reviendra à la bourre le temps d'aller.
Je suis en train de te balancer. Oh là là.
Je suis en train de te balancer.
Donc comme ça, tu es une grande gourmande.
T'es allé acheter tes bonbons ou pas? Ah d'accord, mais je pensais que t'étais allé à la traditionnelle machine à bonbons.
Non.
Pas cette fois-ci.
Ce sera
à l'autre pause.
À l'autre pause. c'est pas le même studio, donc il faut aller plus loin.
C'est un peu plus loin. C'est vrai qu'on a un sacré trajet pour aller à la machine à bonbons. De quoi va-t-on parler dans les GG, dans les grandes gueules? Tiens, vous savez que les pompiers sont en colère. C'est une journée d'action aujourd'hui des pompiers. Donc, on va donner la parole aux pompiers tout à l'heure à 12h20. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 3216. Motif de colère, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics? Ou est-ce qu'on va vous enfumer tout à l'heure à midi dans la réunion Place Beauvau? L'affaire Epstein, est-ce que la France fait ce qu'il faut pour résoudre le volet français de l'affaire Epstein? Elle est attaquée, la France, la justice française, en délit de justice. On essaiera de comprendre ce que ça veut dire. On en parlera notamment avec notre avocate Sandrine Tégan. Emploi fictif, vous savez, les emplois fictifs à la RATP, la suite de l'affaire Bali Bagayoko. Cette fois-ci, la RATP se défend en disant on pourra fournir tous les documents et c'est normal que l'on emploie des élus et ils faisaient le travail. Oui. Est-ce qu'on dit maintenant circuler, il n'y a rien à voir? Est-ce qu'on y croit? C'est au 32-16 que ça se passe. Premier sujet de discussion, là maintenant, un second tour, Rassemblement National, LFI. Ça fait partie des scénarios plausibles de cette élection présidentielle qui arrive tout doucettement. C'est le mois de mai prochain qu'il y aura le premier tour. Et l'ancien Premier ministre François Bayrou estime qu'un duel Rassemblement National France Insoumise pour l'élection présidentielle serait un risque mortel pour le pays. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, dit-il, ce serait une division. Ce serait l'affrontement d'une partie du pays contre l'autre partie. Ce serait constamment la mise en accusation. Ce serait la recherche de boucs émissaires. Pour le Rassemblement National, ce serait les immigrés, les étrangers. Et pour la France Insoumise, ce serait les plus aisés, ceux qui ont les moyens et ceux qui sont riches. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que le second tour Rassemblement National France Insoumise est un risque mortel pour le pays? 32-16 pour en parler avec les G, avec les grandes gueules, Jean-Loup Bonamy.
Moi, je ne vois pas où est le problème d'un second tour RN et LFI. Ça s'appelle la démocratie. Si le peuple souverain choisit ses candidats, ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle aussi l'alternance, parce qu'en fait, avec le système de Monsieur Bayrou, c'est-à-dire qu'on va garder l'équipe actuelle au pouvoir et continuer les mêmes politiques qui nous ont amenés dans le mur, les mêmes politiques UMPS, puisque le macronisme et le bayrouisme, c'est juste l'autre nom de l'UMPS. On va continuer ce système dans lequel on est depuis 30 ans et qui nous a amenés là où on en est. Ben, on va encore le continuer. Si les gens ont envie d'alternance, eh ben, on peut quand même alterner. Mais avec le système de Monsieur Bayrou, c'est l'UMPS pour Milan. Pas d'alternance. C'est, vous pouvez voter, mais à condition de voter pour qui on vous dira. Vous pouvez voter, mais pas pour Jean-Luc Mélenchon, ni pour Marine Le Pen. Donc, en fait, il n'y a plus de démocratie avec le système de François Bayrou. Si d'emblée, il y a trois gros candidats, le Bloc Central, le RN et LFI, et qu'on te dit que sur les trois, tu peux voter, mais il y en a deux pour lesquels tu peux pas voter parce que c'est les méchants extrêmes, eh ben, en fait, il n'y a qu'à plus faire d'élections.
Il s'exprime sur sa vision de ce que pourrait être son second tour.
Non, c'est pas ce qu'il dit.
Il exprime ça.
Il y en a deux qui ne lui vont pas.
Oui, mais il a le droit de le dire. Si tu es pour la démocratie, il a le droit de le dire et d'exprimer que c'est une. Pour lui, ce serait pire pour le pays.
Mais avec son système, on reste là pour Milan. Et peut-être, il devrait se demander pourquoi les gens ont envie de voter pour le Rassemblement National ou LFI.
Oui,
peut-être parce qu'il y a des vrais problèmes et que lui, son équipe, ceux qui gouvernent la France depuis 30 ans ont complètement échoué sur tous les sujets. École, hôpital, justice, sécurité, pouvoir d'achat. La France est dans un état absolument catastrophique. C'est de leur faute. Et c'est pour ça que les gens veulent essayer de débloquer la situation en votant pour d'autres forces politiques, que ce soit LFI ou le RN. C'est de sa faute. Et au lieu de dire « Ah, les extrêmes », il ferait bien de faire son examen de conscience, son autocritique, comme on aurait dit du temps de la Chine de Mao, et de proposer des solutions concrètes.
On lui aurait fait faire d'une autre manière son autocritique.
Ouais. Ben, ça n'aurait peut-être pas été immérité.
Dans un camp de rééducation assez loin de la capitale. Et puis, il n'aurait peut-être pas eu de téléphone portable.
Et bien, voilà, ça nous ferait le plus grand bien.
Sandrine et Joël.
Et encore moins la dignité respectée. Hein,
oui, en plus.
Non, moi, on va créer leur dignité, c'est eux-mêmes qui l'ont jeté aux orties.
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu es d'accord avec ce raisonnement ou pas ?
Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, j'ai le sentiment qu'on est déjà reparti dans le même film. C'est-à-dire qu'à chaque présidentielle, on entend toujours la même musique. Attention, scénario catastrophe, attention aux extrêmes, ne votez pas pour eux. Bayrou, il nous saoule avec à chaque fois cette
rengaine.
Ouais, cette même stratégie. En fait, là, j'ai le sentiment qu'il veut fabriquer comme un grand candidat du centre pour lutter contre ce duel LFI-RN. Mais à quel moment on pense à la France de 2035
c'est ce qu'il dit.
Oui, bah, sauf que...
Enfin, c'est ce qu'il dit. C'est la France du futur, ça ne faut pas que ça passe par eux, sinon c'est la catastrophe.
Il faut dire que François Bayrou pousse la candidature de Thierry Breton. Et que tout ça, tout le but de toutes ces déclarations...
Il fait partie des gens qui
l'ont cité. Le but de toutes ces déclarations, en fait, c'est des manœuvres pour pousser le charismatique Thierry Breton que nous attendons tous.
Oui, mais bon,
gouvernera la France comme il a gouverné Atos.
Moi, je me dis que les présidentielles, c'est pas un front de refus, c'est un vrai choix de société. Mmh. Moi, je veux que on dise aux Français, mais votez pour. Pourquoi à chaque fois faudrait à chaque fois dire votez contre? Mais non, mais votez pour un projet, un programme, une vision et une ambition du pays. Donc, il arrête à chaque fois de nous dire des choses comme ça. Ben oui, si malheureusement, à un moment donné, on se dirige plus vers les extrêmes, c'est peut-être parce que il y a des problèmes au centre. Donc, il faudrait peut-être aussi revoir ce programme-là.
Joël Dagosséry, tu es d'accord avec ce raisonnement ou
non,
pas ?
Non, mais ce qui est frappant, c'est qu'ils s'emmerdent même plus à nous donner envie, tu sais. Donc, ils s'embêtent plus au centre à essayer de nous donner envie de voter pour eux, à nous faire des propositions alléchantes, à nous emmener dans une vision, bah, comme tu as dit, la France de 2035, la France de 2040, histoire que nos petits cœurs de Français battent encore et se disent « Oh oui, ça me donne envie, je vais aller voter pour le centre, etc. » Non, ils s'embêtent plus à tout ça. Donc, ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Et donc, maintenant, tout ce qu'ils font, c'est de nous faire peur avec le RN et LFI. Mais moi, et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça, j'ai déjà dit, cette élection-là, je ne voterai pas contre. Je ne voterai pas contre. C'est-à-dire que si on me propose un débat, un duel LFI-RN, je n'irai pas voter LFI pour faire barrage au RN, ou d'ailleurs le contraire. Je voterai que pour. Il n'y a pas de pour, je reste à la maison. C'est tout. Moi, je ne suis pas leur petite main. Tu vois, on n'est pas leurs petits bras armés pour ne pas faire élire telle ou telle personne. Non, je suis pas leurs bras armés. Je refuse de rentrer dans cette Zumba. Donc non, il peut bien parler, Monsieur Bayrou. D'ailleurs, je pense qu'il devrait disparaître. J'en ai assez de ces politiques qui traînent leur guêtre depuis 40 ans dans la vie politique. T'as été Premier ministre, il est arrivé au sommet de ce qu'il pouvait faire. Tu disparais comme dans les autres pays, comme en Angleterre, comme en Allemagne. On ne les entend plus. Allez, ciao, bye bye.
Oui, mais tu vois,
arrête de nous faire la leçon, d'accord ?
Il y a quelque chose que je comprends dans ton raisonnement. Tu dis, moi, je vais voter pour, mais... Au premier tour, tu auras sûrement un candidat pour lequel
oui,
tu voteras en espérant qu'il soit ensuite au second tour. Si l'on se fie pour le moment aux intentions de vote, on verra, mais... En admettant qu'on arrive sur RN et la France insoumise, toi qui es une libérale affirmée, c'est pas ta tasse d'été, France insoumise. Toi qui veux que les gens s'enrichissent, vu ton parcours professionnel et personnel, tu t'es souvent affronté ici avec des responsables du RN. Donc tu laisserais une des deux formations politiques arriver.
Parce que là, tu nous as dit deux forces, mais t'en as oublié une, parce que Joël se plaint à juste titre des impôts, et pour l'instant, ce racket fiscal est organisé par le macronisme. Donc, le bloc central.
Ah, si jamais c'est la France insoumise, crois-moi, Joël, elle va déguster aussi. Sandrine, le reste. Alors là, les vacances aux États-Unis.
Ah, c'est bon.
Terminé. Ce sera Vierzon avec Bruno Poncé.
Le centre dirige depuis des années. On est racketé. D'accord. Donc moi, je vais pas aller voter pour des gens qui me raquettent. Moi, je suis pas sadomaso. Hein. Je suis désolée. Donc je vais pas aller voter pour des gens qui me raquettent. Et pour RN et LFI, pareil, qui sont aussi dans un déni économique, je vais pas aller voter pour eux. Donc moi j'arrête de me faire du mal, tu vois, j'ai décidé d'arrêter de m'auto-flageller et de m'auto-fouetter. Donc je vais pas aller voter pour des gens qui me veulent du mal, désolée.
Et
donc
ça, mais qui te veut du bien alors, aujourd'hui?
Oui, j'ai bien un candidat qui me veut du bien, donc j'irai voter pour lui au premier tour. Et puis au second tour, s'il n'y est pas, je souhaite qu'il y soit, mais s'il n'y est pas, ben piscine, tennis, à la maison, c'est tout. Et je regarderai.
Quoi qu'il arrive à ton pays à ce moment-là.
Quoi qu'il arrive. Et moi, je vais te dire, on n'aura que ce qu'on mérite. Si les Français veulent du LFI ou du RN, qu'ils en aient. Et si on touche le fond, et si ça peut nous faire remonter, eh ben, tant mieux. Mais moi, je te dis, je ne serai pas le bras armé du centre qui va venir nous dire, votez pour moi, faites barrage. Non, c'est fini. Moi, je suis pas, j'ai pas envie qu'on m'utilise. Ça s'arrête là. Voilà, c'est tout.
Donc, la victoire.
Tu feras de l'abstention.
Bah, la victoire. Ferai,
pourtant, oui, elle reste à la maison, c'est piscine.
Candidat, dit des soi-disant extrêmes, et les filles au RN, qui ne serait peut-être pas une bonne chose en soi, c'est peut-être en effet ce qui permettrait quand même de débloquer le système. Parce que là, le système
Attends, comment tu le débloques avec une victoire du RN ou une victoire de la France Insoumise? Je ne comprends pas. Ouais. Comment tu le débloques?
Parce que si le RN arrive, par exemple, imagine que le RN arrive au pouvoir, ça cessera d'être un parti repoussoir. Bon, si LFI arrive au pouvoir, ça fera aussi complètement basculer les choses. C'est une reconfiguration complète. Là, t'es dans le Big Bang, t'es dans le renverser la table. C'est pas que c'est forcément ce qu'il faut, mais en fait, c'est pas absurde puisque là, t'as un système qui est complètement bloqué par des gens comme Monsieur Bayrou. Donc, de toute façon. Et voilà. Et je vois en plus que, comme disait Joël, dans tout le bloc central, que ce soit Bayrou, Édouard Philippe ou d'autres, il n'y a plus la volonté ni d'argumenter, ni de séduire, ni de convaincre, ni de susciter l'adhésion, ni de donner envie. C'est, on est nul, on est archi nul, mais finalement, les autres sont pires que nous, c'est les méchants extrêmes. Donc, c'est soit vous continuez avec nous et qui sommes nullissimes, soit, voilà, c'est le chaos et le saut dans l'inconnu. Bah, c'est un petit chantage qui ne marche
plus. Mais tu sais, je vois pas en quoi ces deux-là vont renverser le système.
Ils ont un vrai programme de rupture, comme le disait Jean-Loup, avec ce qui se passe aujourd'hui.
Donc, complètement
et la France Insoumise,
moi,
en plus, c'est un programme constitutionnel pour revoir les institutions.
Un vrai programme de rupture, pour moi, là où on est étouffé, nous, au niveau du pouvoir d'achat, par exemple, ce serait de libéraliser, de libérer l'économie. Pour moi, ce serait un vrai programme de rupture parce que ça me redonnerait des pépettes.
Effectivement,
ça va changer ma vie.
Je vais te dire un truc. Ce que tu dis là, c'est audible au GG, mais pour l'instant, c'est pas audible dans le champ politique. Mais si jamais, par exemple, Mélenchon arrive au pouvoir, ton discours devient, par réaction à Mélenchon, par opposition,
plus audible.
Droit de citer et deviendra beaucoup plus audible dans le champ politique. Ça va tout basculer.
Parce que là, les Français galèrent pas assez. C'est pas encore assez audible. Je veux dire, s'ils sont à découvert le 5 du mois, c'est pas encore assez audible.
Dans le champ politique, on n'a pas encore assez d'argent.
On a Jonathan qui veut intervenir dans notre discussion. Il nous appelle de l'Aisne. Jonathan, bonjour.
Bonjour les GG.
Commercial, bonjour, donc est-ce que c'est un risque mortel pour le pays, la victoire de l'un ou la victoire de l'autre, Jonathan ?
Alors non, moi je trouve pas. En fait, comme vous le disiez, c'est les deux seuls partis en fait qui proposent vraiment quelque chose de concret. Alors moi, pour ma part, je suis anti-Rassemblement National, donc je mettrai pas un vote pour eux, mais voilà. Alors, j'aime bien les idées de LFI. Je verrais bien au niveau du... Parce que je suis un peu pro-libéral aussi, donc en fait, j'aime beaucoup de leurs idées, mais économiquement à voir.
Joël, elle est en train d'ouvrir les grands yeux. Moi aussi, faut arriver à nous expliquer votre concept, Jonathan. Là.
En fait, c'est leur côté humanisme, j'aime bien.
D'accord.
Je suis anti-raciste. Ouais, clairement.
Voilà, c'est ça qui motive chez les filles, c'est l'antiracisme.
Ouais, c'est ça, mais j'ai peur. Mais en fait, on voit clairement que depuis que le RN monte dans les sondages, on voit les langues se délier clairement sur les réseaux, partout. Il n'y a pas une semaine où on entend des propos racistes dans des sales bougnoules, des trucs comme ça. Enfin, moi, ça me rend fou.
Et Jonathan, aussi, peut-être, vous m'arrêtez si je me trompe, peut-être que ce qui vous séduit chez les filles, on se faisait la réflexion à mi-voix avec Alain, c'est les questions internationales aussi, par exemple, Gaza.
Exactement, moi, je suis désolé.
Mais tout en étant beaucoup plus libéral économiquement, donc si Mélenchon arrive au pouvoir, vous ne serez quand même peut-être pas satisfait fondamentales.
Il propose d'autres tranches d'imposition. Moi, je suis commercial, je fais partie de la classe, on va dire, moyenne plus.
14 tranches, il propose.
Voilà, à voir dans quelle tranche je serai.
Il remet l'impôt sur la fortune et il met 14 tranches d'imposition. Il remonte le SMIC et il met la retraite à 60 ans avec 40 annuités.
Ouais, voilà. Mais donc, voilà, tout ça, ça paraît beau. En effet, voilà, je suis à la base un électeur socialiste. Mais
voilà, orphelin aujourd'hui du PS. Quoi,
exactement. En fait. Mais là, enfin, voilà, c'est les seuls qui se trouvent. Enfin, même leurs intervenants, vous prenez Bompard, vous prenez un Guiraud.
Les mecs, ah, mais ils sont bons, hein. On les reçoit souvent sur les plateaux, bien sûr.
Ça rien à voir avec.
Et vous aimeriez qui à l'EuroPS, Jonathan, puisque vous êtes un.
Ah, non, mais même plus. Oh, non, mais même plus. J'y crois plus du tout au PS.
Ouais, donc les déceptions accumulées, des promesses non tenues.
Un petit problème chez Jean-Luc Mélenchon, chez Marine Le Pen aussi d'ailleurs, c'est que là par exemple, et je l'ai défendu, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a 10 minutes j'ai défendu Mélenchon à propos de la monétisation de la dette, mais quand même, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la monétisation de la dette, qui me paraît une excellente idée en soi, tant qu'on est dans le cadre européen et dans le cadre de l'euro, d'ailleurs Mélenchon disait oui, j'irai demander à la BCE, mais justement avec l'euro et le cadre européen, la BCE c'est pas lui qui la contrôle, et donc la France ne contrôle pas la BCE alors qu'elle pourrait contrôler Jonathan, la Banque de France.
Jonathan,
c'est quand même
je vous remercie
le vrai problème du programme.
Je vous remercie.
Dans le cadre européen, moi je suis pour en sortir.
Je vous remercie d'avoir été avec nous. Là, peut-être où François Bayrou, je suis d'accord sur le début de ton raisonnement. Il n'a pas à prédire le chaos.
Oui,
François
sinon Bayrou. On fait plus d'élections et voilà. Puis c'est réglé.
Sinon, on reste sur une seule famille politique voilà. et puis on passe à autre chose. Mais là où il a raison, c'est peut-être sur ces deux France qui se retrouveront peut-être face à face. C'est-à-dire, si la France insoumise gagne, que peut-il se passer dans la rue? Si le Rassemblement national gagne, que peut-il se passer dans la rue? Quelle tension ça va créer à ce moment-là, tu vois, entre les Français même, puisqu'on va avoir des programmes qui sont radicaux.
Mais...
Tu vas me dire que les deux, pour le premier tour, ils vont faire donner les tambours du premier tour, c'est-à-dire sur leur famille politique, avec des propositions qui seront assez fortes. Et puis ensuite, pour rassembler au deuxième tour et gagner, il faudra qu'ils adoucissent un peu leur discours, quoi. Mais cette confrontation entre le deux France, c'est un risque aujourd'hui, ça. Et là, François Bayrou, il a peut-être raison.
Je crois pas que ce soit toute la France, en fait, qui va être coupée en deux. Il y aura trois France. Il y aura donc la France LFI qui va être bruyante, la France RN qui va être bruyante. Et au milieu, je vois une sorte de disparition ou d'effacement de gens peut-être comme moi, en fait, qui vont plus du tout se sentir concernés, par exemple, par ce débat politique du deuxième tour, par les propositions, et qui vont petit à petit se faire petit et peut-être envisager d'autres solutions, partir, tu vois, enfin, qui vont créer une sorte de réflexe de survie pour eux, parce qu'en fait, ça ne leur correspond absolument pas, non seulement sur le plan sociétal, ce qu'on leur propose, et puis sur le plan économique, encore moins. Donc, il y aura trois France. Il y a une France, je vous dis, qui est très silencieuse, d'ailleurs, qui manifeste pas très souvent, qui essaye de s'en sortir par ses petits moyens.
Cette France silencieuse, et... justement, comme le rappelait Jean-Loup ou Sandrine, c'est-à-dire qui se retrouve là aujourd'hui un peu, enfin, déçu, désappointé par 10 ans de Macron. On n'est pas allé assez loin pour libérer le travail, alléger les impôts, pour innover. Vers qui elle va se tourner, quoi? C'est ça le problème pour le moment. Si tu veux, on lui repropose des gens qui ont été dans la Macronie, qui ont été dans le système. Alors, il y en aura peut-être d'autres qui vont émerger d'ici là, hein. Effectivement. On n'en est pas encore dans la vraie campagne tambour battant, quoi.
Mais elle va faire ce qu'elle fait depuis toujours, c'est-à-dire se débrouiller par elle-même. C'est la mais je te dis
ouais, mais bon c'est
elle va pas voter
mais non oui
si, elle va ben non elle sait pas qu'elle va pas voter c'est voter il y en a blanc, sûrement qui vont peut-être voter blanc ou qui vont même voter RN ou LFI parce que je sais qu'à droite par exemple il y en a qui préféreront se dire je préfère voter pour le RN parce que LFI pour eux c'est le diable et puis il y en a d'autres par exemple qui voteraient à droite qui sont plutôt libéraux mais qui ont comme le Jonathan qui se disent ouais mais moi je me sens vraiment antiraciste etc donc je vais aller voter LFI mais t'as toute une partie qui va se dire mais en fait il me reste plus que moi-même, mon petit écosystème, mes collègues,
je vais me débrouiller
mes trucs,
moi-même.
on va créer un truc entre nous, on va soutenir entre nous, voilà, et c'est tout. Moi, comme moi, je fais partie de mouvements d'entrepreneurs, des choses comme ça, où on se donne des idées, du soutien, etc. Parce qu'en fait, réellement, le soutien, il vient absolument pas de l'État, et je parle pas en termes d'aide, je parle en termes d'investissement dans des infrastructures, d'innovation, etc. Voilà.
Après, franchement, je sais pas si vous avez vu autour de vous, mais quand on parle des présidentielles, il n'y a pas une seule personne, en tout cas autour de moi, qui ne me dit pas au second tour, ça sera LFI-RN. Bon, je sais pas ce qu'il en est autour de vous, mais et donc aujourd'hui, en fait, on se rend bien compte que si le RN et LFI sont aussi hauts dans les sondages, c'est pas tombé du ciel. C'est parce qu'on voit bien qu'il y a des déceptions accumulées, qu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues, qu'il y a un fossé entre les dirigeants et notre pays. Donc forcément, on en arrive là. Mais donc quelque part, on peut se dire que Bayrou, il est visionnaire. Mais est-ce que c'est mieux les extrêmes ou est-ce que c'est mieux le centre? C'est ça en fait.
De trouver quelqu'un de raisonnable. Voilà. Quoi. Mais tu recréeras exactement ce qui se passe en ce moment.
Deux choses. Un, il faudrait justement que ce qu'on appelle le centre, eh ben justement renverse la table et enfin des propositions. Concrète et radicale de rupture, parce que François Bayrou, il dit c'est soit nous, soit le chaos. Mais le chaos, en fait, c'est aussi si on continue comme ça. Si on continue comme ça, c'est le chaos. Et justement, c'est le problème pour le centre. Comment faire des propositions concrètes et radicales, ce qu'il faut faire, parce qu'on a besoin de ça, alors que t'incarnes, en fait, que le, ceux qui sont au pouvoir depuis des années et des années.
Je sais pas
et
si tu incarnes un échec du pays. Oui. Dans tous les cas, tu incarnes une déception pour le pays.
À mon avis, un échec objectif. Il y a qu'à écouter nos émissions. Et regarder l'actualité. Et faites-le. Et deuxièmement, moi j'ai donné un conseil au RN. Je donne un conseil au RN parce que tu disais, tu avais tout à fait raison, et Bayrou aussi avait raison sur ce point. Si c'est RN et les filles, ça donne vraiment un climat de très forte, de très fort antagonisme, de conflit dans la société, presque de guerre civile.
De peur.
Moi, je pense que le Rassemblement National doit impérativement renoncer à sa proposition d'interdire le voile, le foulard islamique dans l'espace public, parce que ça, c'est vraiment pas la priorité. Et ça. C'est une proposition qui va vraiment braquer et qui est vraiment presque une proposition de guerre civile. Donc il faut être extrêmement ferme sur l'immigration, sur les flux migratoires, extrêmement ferme sur la sécurité.
Ce serait une proposition liberticide.
Mais, mais une proposition qui va créer des troubles dans la société. Déjà, tu t'aliènes complètement tout l'électorat musulman, même les femmes qui ne sont musulmanes, qui ne sont pas voilées. Elles peuvent avoir une sœur, une mère, une tante voilée, ou pareil pour les hommes d'ailleurs. Donc ils vont pas aller voter pour toi à cause de ça. Et aussi.
Mais Jean-Loup, n'oublie pas une chose, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans qui veulent voter pour le RN, hein.
Non. Il y en a.
Mais oui, tout à fait raison,
mais il n'y en a pas beaucoup, justement, à cause des histoires d'interdiction du voile et ce genre de choses. Et donc, également, ça donne, t'as plein de gens, de vieux, de boomers, de droite ou centristes, qui pourraient voter pour le RN et même qui n'aiment pas trop le voile, mais qui se disent, c'est vraiment une proposition de guerre civile, parce que ça serait une loi inapplicable qui va causer plein de troubles. Et moi, j'ai pas envie de la guerre civile. La guerre civile n'est pas un programme de gouvernement. Donc, le RN doit renoncer
mais
à cette proposition irréaliste.
Il peut y avoir un risque aussi de guerre civile.
Avec
la France Insoumise. Soumise aussi.
C'est beaucoup plus compliqué. À mon avis, le problème viendra plus de ce que j'ai évoqué précédemment. Il faut reculer sur ce terrain-là parce que c'est vraiment survoyé.
RNLFI, est-ce que c'est un risque mortel pour le pays, comme le dit François Bayrou? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Pas d'accord! À 80%, quasiment. Voilà, c'est réglé. Il est 10h25. Dans un instant, sujet de discussion. On va revenir sur la mise au point de la RATP. À propos, vous savez, des emplois fictifs, 200 personnes qui seraient droite, gauche, centre confondu, employés à la RATP. Ils sont élus, mais ils posent aussi un boulot à la RATP. Donc, est-ce que c'est circuler? Il y a rien à voir. Circuler, c'est terminé. La RATP dément. Est-ce qu'on les croit? Il est 10h25. Joël, tu vas aller chercher tes bonbons. C'est bon, là, tu vas avoir 3 minutes.
3 minutes.
Tu peux y aller. Allez, reste avec les Gigi. On vous attend au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Avec les GG, on discute, on débat et vous prenez la parole, comme Jonathan il y a quelques instants, au 32-16. Sandrine Pégan, Maître Pégan est là, oui. Elle est avec nous, tout comme Joël Dagosséry, la coach de vie, et Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie. On va revenir sur ce qui est le feuilleton de ce mois d'août, vous savez, les emplois fictifs à la RATP, Monsieur Bali Bagayoko, d'après le Canard Enchaîné, il y a 200 élus de tous bords. La RATP a fait une mise au point. Est-ce qu'on y croit? Vous en parlez avec nous au 32-16. Alors. Déjà, il faut rappeler qu'on a une deuxième plainte qui a été déposée par l'association AC Anticorruption, qui dit, il faut savoir si ce sont des emplois fictifs ou pas, destinés aux élus parisiens et franciliens. Et c'est ce volet, donc deuxième volet du Canard Enchaîné, qui parle de 200 agents de la RATP sur la bonne voie. Alors, la RATP conteste l'ensemble des informations, elle dément les allégations d'emploi de complaisance au sein de l'entreprise, elle précise que la loi prévoit notamment que les élus locaux peuvent bénéficier d'autorisations d'absence et de crédits d'heures pour leur permettre d'exercer leur mandat. Ces absences ne sont pas rémunérées par la RATP. Concernant Monsieur Bali Bagayoko, elle dit qu'il a été recruté en 2001 après avoir passé les entretiens d'embauche, puis ceux préalables à la titularisation, comme c'est le cas pour tous les agents RATP au statut. La Régie des Transports précise qu'il n'y a pas de concours pour intégrer la RATP, comme c'est le cas dans la fonction publique, car les agents RATP ne sont pas fonctionnaires. Est-ce que cette explication est suffisante? Oui ou non ou pas? 32-16 pour en parler avec les GG, Sandrine Pégan.
Moi, je me dis que quand le canard enchaîné sort une affaire, je ne la balaye pas d'un revers de main. Parce que mine de rien, le canard enchaîné, il y a eu des précédents. C'est le canard enchaîné qui a sorti l'affaire Fillon, qui a sorti les diamants de Bocassa avec Valéry Giscard d'Estaing en 79, le financement du RPR, etc. Donc moi, je me dis, attention, le canard enchaîné a peut-être fait un travail journalistique extrêmement poussé pour en arriver là, d'autant qu'ils ont répondu au communiqué de la RATP en disant qu'il y avait maintenant 200 élus locaux qui travaillaient à la RATP. Alors, est-ce qu'on parle d'emploi fictif ou emploi de complaisance, parce que c'est pas la même chose. Emploi fictif, c'est que véritablement t'as juste un contrat de travail et t'as jamais travaillé. Emploi de complaisance, c'est que la RATP maintient un élu au sein de ses salariés, très bien rémunéré, avec peu de travail réel, mais parce que derrière, il peut lui être favorable politiquement parlant.
Mais ça, c'est pas un délit. L'emploi fictif est un délit. Est-ce que l'emploi de complaisance est un délit?
Oui, parce que derrière, tu y tires un avantage. Donc forcément, ça peut, ce n'est pas légal. Maintenant, là, ce que dit la RATP, c'est que ce qu'elle a fait, en tout cas, soi-disant ce qu'elle prétend avoir fait avec Monsieur Bagayoko, c'est parfaitement légal. Crédit d'heure, autorisation d'absence, etc. Maintenant, on se pose la question de savoir si est-ce que c'est la RATP qui doit produire là comme ça sur internet, ou est-ce que c'est au parquet de le demander? Donc les plaintes ont été déposées.
Le parquet national financier est saisi.
Oui, mais alors maintenant, est-ce qu'il va le demander? On verra. On imagine que oui, mais bon, et de toute façon, il faut que la RATP éclaircisse tout ça. Il y a un besoin de transparence aujourd'hui.
Joël Dagossier, est-ce que ça te satisfait? Parce qu'en fait, ils répondent sur la forme, pas sur le fond. C'est-à-dire, ils ne disent pas pourquoi ces élus ont été embauchés. Si oui, ils ont été embauchés, quels étaient leur rôle exact? Parce que qu'il y ait des effectivement
des crédits d'heure, autorisations.
Oui, oui, qui des autorisations, des dérogations pour en tant qu'élu que tu puisses aller exercer ton mandat. Mais est-ce que c'est pas la question? Est-ce qu'ils effectuent un réel travail à la RATP? Est-ce qu'ils ont été embauchés pour un poste et une fonction qu'ils ont rempli, quoi? Joël Dagossery.
Mais ça ne me satisfait absolument pas. Elle se défend sur le plan du droit. Donc si effectivement, comme l'explique bien Sandrine, c'est du crédit d'heure, voilà, tu pars faire ton travail d'élu, on t'enlève des heures, etc. Ok. Moi, ce qui me pose problème, c'est pas sur le plan du droit, c'est sur le plan moral. Premièrement, prenons le cas de Monsieur Bali Bagayoko, qui fait partie d'un parti qui lutterait, soi-disant, contre les privilégiés. Mais excuse-moi, c'est un privilège de pouvoir être élu et d'avoir un coussin dans une entreprise semi-publique où tu peux te rabattre au cas où tu n'aurais plus, au cas où tu ne serais plus élu, et donc qui maintient ton emploi au chaud tout le temps de tes mandats. Et si par hasard tu venais à les perdre, tu pourrais être réintégré, et en plus qui te verse un salaire confortable. C'est
on parle de 6 000 euros. Hein.
Ouais, c'est du privilège. Il n'y a pas beaucoup de citoyens, si ce n'est même la majorité des millions de Français ici, qui peuvent se targuer de pouvoir avoir un coussin, un matelas, d'aller faire ce qui leur plaît, donc d'être élu, etc., d'avoir un emploi à 6 000 euros qui continue donc d'être versé, et de pouvoir, si par hasard ils perdaient leur mandat, revenir tranquillement.
Mais c'est légal, Joël.
Oui, d'accord, c'est légal. Mais c'est un privilège. C'est-à-dire que ça fait partie du système, d'accord. Donc tu n'es pas anti-système. Tu es comme tous les autres, tu comprends comment le système fonctionne et tu l'utilises comme tous les partis qui sont dans le système. Donc le discours anti-système, faut l'arrêter 2 minutes si toi tu profites du système. Donc effectivement, sur le plan légal, si c'est légal, moi j'ai rien à dire. Par contre, sur le plan moral et sur le plan d'incarnation de tes idées, désolé, t'es à côté de la plaque. Voilà, t'es à côté de la plaque.
Parce que personne ne répond sur quel était son métier.
Exactement.
Pour ces gens-là, quels étaient leurs métiers? Est-ce que le matin, exactement, ils arrivaient à la RATP, là, les 200 ou Monsieur Bagayoko, à quelle heure ils arrivaient à la RATP? Quelle était leur fonction? Quelles étaient les fiches de salaire? Est-ce qu'ils étaient là en constant? Et de temps en temps qu'il y ait effectivement les motifs pour aller en tant qu'élu, c'est une chose. Mais est-ce qu'ils ont été pris parce qu'ils étaient élus et ça sert le réseau? Ou est-ce qu'on les a pris parce qu'ils avaient un vrai métier à la RATP? Il faut juste répondre là-dessus.
Mais c'est la corruption et du trafic d'influence aussi.
Le prétexte de dire il a passé tous les entretiens, il a passé machin, etc. Moi, ce que je veux savoir, c'est pas les entretiens, c'est comment tu as été introduit. Donc, moi, je fais une différence entre je suis un travailleur, je suis un salarié de la RATP, je décide au bout de 10 ans de devenir élu, par exemple. La RATP, ok, me fait mes petits crédits d'heure et tout. Ou alors, je suis un élu et je suis, entre guillemets, coopté par mon mentor, machin, qui appelle à la RATP, qui dit, oui, trouvez-lui un poste, machin, oui, faites-lui passer des entretiens.
Et il est rentré à la RATP en 2000 ans.
Ça, c'est autre chose, d'accord? Donc ça, c'est autre chose. C'est l'accès à la RATP qui est autre chose. Et aussi, c'est le système, la RATP, EDF, toutes ces entreprises publiques, en fait, qui servent de base arrière aux élus pour avoir leur petit coussin et leur petite sécurité en cas de perte de leur mandat. Bah, je suis désolée, c'est un système qu'il faut démanteler. D'accord? Vous avez aussi des entreprises, notamment des syndicats. Il faut aller voir dans le syndicat du livre, de l'imprimerie, parfois qui eux-mêmes recrutent. C'est-à-dire que si tu passes pas par le syndicat, tu n'es pas recruté, si tu n'es pas adoué par le syndicat. Donc tout ça, c'est un système. À un moment, il faut mettre le nez dedans. Et j'espère que le parquet financier va mettre le nez dedans et nous mettre un coup de pied là-dedans.
Jean-Loup.
Bah, écoute, je vais vous décevoir, mais je n'ai absolument aucune opinion sur cette affaire parce que je connais très mal le dossier. Je connais mal le fonctionnement interne de la RATP.
Et là, on parle du système des élus qui arrivent dans les entreprises publiques.
Je connais mal les faits, encore, qui ne me paraissent pas établis pour le moment. Qu'est-ce qui faisait vraiment... Voilà, les faits ne sont pas établis. Je connais mal la question sur le plan du droit. On sait qu'il peut y avoir une sorte de tambouille interne dans les entreprises, mais qui peut aussi avoir sa raison d'être. Moi, je suis pas un obsédé de la lutte contre les emplois fictifs. Je pense que le parquet national financier ne devrait pas exister. Récente d'ailleurs, que les moyens de la justice devraient plutôt être employés prioritairement sur d'autres dossiers comme le narcotrafic ou les violences aux personnes, parce qu'il y a une vraie défaillance ou la pédocriminalité. Ou la pédocriminalité, parce que c'est plus important d'arrêter c'est prioritaire d'employer les moyens de la justice pour arrêter des pédophiles. On en reparlera avec l'affaire Epstein. Donc je ne connais pas cette affaire. Je verrai bien, je me prononcerai éventuellement pour, en défense, ou, au contraire, en attaque vis-à-vis de Bali Bagayoko, je ne sais pas encore, quand on en saura plus. Mais je tiens quand même à faire une petite remarque.
Ah.
C'est que pour nos auditeurs qui ne nous voient pas à la télévision, sachez que derrière Joël et Sandrine, il y a une magnifique image d'un métro d'un très beau vert. Je ne connaissais pas
avec un quai très propre.
Avec un quai très... Alors ça, c'est un peu surréaliste. Oui.
Le vert, il est un peu fluo d'habitude.
Le vert fluo du métro, c'est une nouvelle gamme chromatique que je ne connaissais pas. Et par contre, derrière Alain, il y a le siège de la RATP, la maison de la RATP qui se trouve en face de la gare de Lyon. Je tiens à dire que j'y étais hier soir en arrivant à Paris. Là, c'est assez intéressant. J'ai attendu le bus 63 Gare de Lyon. Donc, en fait, la machine pour acheter des tickets ou recharger son pass Navigo ne marchait pas. Elle était en panne. C'était extrêmement sale. Là, on faisait la comparaison avec les États-Unis. Mais le niveau de saleté était absolument... hallucinant, c'était vraiment le tiers-monde, les poubelles étaient éventrées, le sol jonché de détritus, vraiment c'est un peu inquiétant.
Vive la
Et
France.
Pareil, il n'y avait pas d'indication de dans combien de temps le bus arrive.
Ah bah, penses-tu.
Voilà. Donc c'était une scène, je verrais que la RATP s'occupe de ça. Voilà.
Au lieu Paul. De payer ses élus et ses salariés à 6 000 euros.
Paul, bonjour Paul.
Je ne sais pas si c'est le cas.
Chef d'entreprise en Gironde, qu'en dites-vous de cette histoire? Est-ce que la RATP et ses explications sont suffisantes ou pas?
Bien sûr que non. Jean-Loup, je l'aime bien. À la fois, il dit c'est pas propre, il y a pas les moyens, et en même temps, on apprend qu'il y a 200 élus qui ont peut-être potentiellement des emplois.
Voilà, peut-être.
Semi-fictifs. Mais on va laisser le procureur du PNF, ouais. Pascal Prache, ouvrir une enquête. Il y a une plainte d'assez corruption, même si assez corruption, je suis assez réservé dessus comme anticorps. Dans la démarche, ils vont aller chercher. Moi, j'en peux plus de la corruption, parce que vous en parlez, c'est bien, mais je pense qu'il faudra en parler plus, parce que c'est un pillage institutionnalisé, c'est un système qui est en place. Que ce soit celui-là, la RATP, ou tous les autres dont on entend parler, ou on n'entend pas parler, je veux juste poser le doigt sur le dossier qui est sorti il y a 24 heures sur Olivier Véran, qui une fois est parti de la députation, au bout de 2 mois a monté une société de conseil qui s'appelle Innove, et qui a encaissé sur son premier exercice, accrochez-vous bien, 481 000 euros de bénéfices. On parle de bénéfices. Qui c'est qui vérifie? Non, personne ne vérifie, puisque ce n'est pas dans les compétences de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique créée par François Hollande.
Ouais.
Moi, j'en peux plus de tous ces politiques qui montent des boîtes de conseil en parallèle, qui se gavent, mais qui se gavent de façon anormale. Toute la journée, de façon réaliste, vous parlez des problèmes financiers, tous qu'ont les Français, et eux, à côté, ils sont dans leur système, ils ont créé leur système, ils se protègent, et tout va bien. Moi, c'est anormal. J'attends que sur les peines de... sur la corruption, tout ce qui touche autour de la corruption, parce que l'histoire dont on parle de la RATP, vous me le confirmerez,
mais ça fait partie du spectre de la corruption. J'en peux plus qu'on se fasse pas. Nous, on travaille comme des tarés.
Oui.
On travaille comme des tarés à côté. Il y en a certains qui se gavent comme des cochons. C'est plus possible.
C'est quoi?
C'est un vrai coup de gueule.
C'est soit de la corruption passive, soit de la corruption active, soit c'est du trafic d'influence. Donc oui, vous avez raison, c'est englobé dans la même catégorie.
Mais moi, j'en ai un peu marre si le PNF fait preuve de célérité à la rentrée de cette histoire, s'il se saisit du dossier.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire notre auditeur et sur le parasitisme et la corruption, il n'y a aucun souci. Mais disons, j'en ai un peu marre de la chape de plomb des juges sur la vie politique. Tu vois, moi, en 2017, j'avais défendu François Fillon et son épouse, alors que pourtant, j'ai pas beaucoup de sympathie pour François Fillon, mais voilà, j'avais défendu dans cette affaire. J'avais défendu Patrick Buisson sur l'affaire des sondages de l'Élysée. Ouais, je trouve qu'il y a un peu les juges entravent complètement aussi l'action politique.
Parce qu'en fait, ils devraient, pour toi, continuer de faire des emplois semi-fictifs.
Moi, ce que je veux, c'est que les politiques aient des résultats. Ce que je veux, c'est que la RATP fonctionne.
Oui, mais il y a un devoir d'exemplarité aussi.
Si la RATP fonctionne, je m'en fous qu'il y ait des emplois fictifs, je le dis comme ça. Le problème, c'est qu'elle ne fonctionne pas.
Mais ça ne peut pas fonctionner.
C'est les services publics et c'est nos impôts qui
Mais si tu payes un salarié qui, en fait, ne travaille pas et tu payes 6 000 euros, les 6 000 euros que tu lui donnes, tu ne vas pas les faire pour les rames.
Il fait de la médiation pour éviter des grèves, il fait du dialogue social.
Ça fonctionne bien pour éviter des grèves. T'as raison.
Non, mais le problème, c'est que les dysfonctionnements internes, c'est ça.
Donc
que
toi,
je
tu es pour les privilèges.
Je m'en moque.
Soupçon d'emploi fictif, la RATP dément. Est-ce qu'on y croit, oui ou non? Qu'est-ce que vous en dites? On n'y croit pas. On n'y croit pas à 90%. Tiens, puisqu'on parlait de la justice, là, on va regarder l'affaire Epstein avec un ancien mannequin.
Ah, plus intéressant.
L'État français pour déni de justice. Après l'association aussi Innocence en danger qui attaque aussi l'État français dans l'affaire Epstein pour déni de justice en disant l'État français ne fait rien sur le volet français de l'affaire Epstein. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses gênantes? Enfin, je sais pas. 32-16 pour en discuter avec nous, il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
GG les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story avec aujourd'hui Jean-Loup Bonamy, Sandrine Pégan et Joël Dagosserine, coach de vie, un prof de philo et une avocate. Justement, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans l'affaire Epstein avec deux plaintes qui visent la justice française pour déni de justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'effectivement la justice française est au ralenti en ce qui concerne le volet français de l'affaire Epstein? L'État français est assigné par l'ex-mannequin Ebba Carlsson après la mort en fait du rabatteur Daniel Siad. Il a été retrouvé mort chez lui. A priori, ça pourrait être un AVC, mais on n'a pas les détails exacts de sa mort. Siad, c'était un des rabatteurs de mannequins accusé de viol d'ailleurs par Ebba Carlsson. L'association de protection de l'enfance Innocence en danger est aussi à l'origine du signalement de 2019 qui a déclenché le volet français dans l'affaire Epstein et elle-même avait assigné l'État français pour déni de justice. En fait, ce qui est reproché à l'État français, en clair, c'est son inertie ou son inaction dans les ramifications françaises du réseau. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que la France ne fait rien dans le volet français de l'affaire Epstein? Déjà, qu'est-ce que c'est que le déni de justice? Où ça peut aller, Maître Pégan, alors?
Alors, on va recadrer les choses. Assignation devant un tribunal, c'est pas comme une plainte, hein, d'accord? Donc c'est vraiment une action civile. Là, c'est un acte qui est délivré pour justement faire reconnaître un droit. Dans cette affaire-là, c'est faire reconnaître que l'État et le fonctionnement de la justice a commis une faute. Que le fonctionnement de la justice était défectueux. Le déni de justice, c'est ça. C'est-à-dire que tu y a une inertie, il y a une absence d'investigation, une absence de diligence, et du coup, ça crée un préjudice. Moi, par exemple, je vous parle de ça il y a quelques années, j'avais déposé une plainte pour une de mes clientes, pour agression. Rien n'a été effectué pendant 7 ans, et la prescription a été acquise, parce que malheureusement, en France, c'est 6 ans. C'est-à-dire que donc, une fois que tu dénonces, et une fois qu'il y a des faits qui sont produits, en tout cas des faits délictuels, tu as 6 ans pour que ça puisse être instruit par la justice. Là, la justice n'avait strictement rien fait pendant 7 ans. J'ai assigné l'État pour justement fonctionnement défectueux des services de la justice. J'ai obtenu gain de cause. Vous savez combien j'ai obtenu pour ma cliente? 8 000 euros. 8 000 euros parce que pendant 7 ans la justice n'avait strictement rien fait. Donc là, je ne dis pas que l'action d'Ebba Carlson est fantaisiste, loin de là, mais son succès n'est pas garanti parce que le parquet.
Elle veut pas des dommages d'intérêt, elle veut simplement que le parquet enquête. Ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait une enquête, savoir s'il y avait un réseau en France qui protégeait ce
Croyez-moi,
réseau.
Croyez-moi, elle demandera aussi réparation de son préjudice parce que justement il y a eu une inertie de la justice. Mais là où le parquet va pouvoir se défendre et à juste titre, c'est que j'ai bien regardé le dossier. Justement, c'est qu'il y a une enquête qui a été ouverte à partir du 18 février 2026, que au corps défendant du parquet, c'est qu'il y avait quand même 1,5 million de documents à étudier, que Daniel Ciad était sur écoute depuis déjà quelques mois, et que donc il n'y avait rien sur les écoutes qui permettait de pouvoir l'arrêter, donc de le placer en garde à vue et de l'interroger, puisqu'il faut quand même avoir de la matière grise quand tu places quelqu'un en garde à vue. Sinon, si tu le places en garde à vue pendant 48 heures, après, tu te grilles des cartouches. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le succès de cette procédure n'est pas forcément acquise. Mais en tout cas, elle a le mérite d'exister et moi-même, je suis l'avocat de Flora Coquerel qui était donc l'ancienne Miss France et qui a été aussi citée dans les dossiers Epstein, oui. Notamment par Daniel Ciad. Et justement, quand on a su et quand on a appris la mort cet été, eh bien, il était question aussi qu'on dépose plainte contre lui. Et donc
est-ce que tu penses, puisque tu es dans le dossier, que l'État fait ce qu'il faut, la justice française fait ce qu'il faut dans l'affaire Epstein ou pas? Ou est-ce qu'on est délibérément au ralenti?
Ben, je vous dis, donc par rapport à toutes ces dates-là, avec l'enquête qui a été ouverte le 18 février 2026.
Est-ce que le parquet traîne les pieds sur l'affaire
Epstein? Non, vous vous rendez compte, le parquet a ouvert une enquête à son endroit le 18 février 2026. Et depuis le 18 février 2026, il y a eu plein de choses. Comme je vous l'ai dit, 1,5 million de documents à étudier, des écoutes,
c'est
etc.
C'est simplement parce que le truc est énorme et donc c'est lent.
Voilà, maintenant, la difficulté pour le parquet à justifier, c'est pour toute la période antérieure à 2026. Parce que Daniel Ciad était déjà cité depuis longtemps. Donc c'est ça, en fait, où ils vont devoir s'expliquer. Mais en tout cas, à partir du moment où l'enquête a été ouverte, on ne peut pas dire que la justice a été défectueuse.
Monsieur Jean-Loup.
J'ai beaucoup de choses à dire, mais la première, c'est que je trouve qu'on meurt beaucoup dans cette affaire Epstein. Il y a quand même beaucoup de morts.
Ces gens ont des problèmes de santé ou sont suicidaires.
De suicide ou de santé. On meurt beaucoup, prématurément. Parfois de manière inexpliquée dans cette affaire. Je n'en tire aucune conclusion, mais à commencer par Monsieur Epstein lui-même, retrouvé suicidé dans sa cellule.
Je remarque tout comme Monsieur Brunel.
Voilà, et je remarque également que dans le cas que des gens dont sur les réseaux sociaux on annonçait alors qu'ils étaient encore vivants la mort de manière humoristique pour annoncer que peut-être ils allaient être éliminés. Supprimé. Et ben curieusement, ces gens dont on annonçait le suicide à l'avance, alors qu'ils étaient encore vivants, meurent prématurément. Donc moi, je trouve qu'on meurt beaucoup dans cette affaire. Faudrait demander à un statisticien est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il n'y a pas une anomalie statistique dans cette affaire. Peut-être qu'il nous dira d'ailleurs que statistiquement, en fait, c'est normal. C'est vrai qu'il y a des gens qui se suicident. Surtout, ça peut arriver. Mais quand même, j'aimerais qu'on se pose la question.
Mais il y a une enquête,
lui-même.
Il y a une enquête sur les circonstances de la mort de chacun des protagonistes que tu as cités.
Ça serait intéressant, justement.
Non, mais elle est en cours.
Et voilà, ça serait intéressant d'en savoir plus. Donc, on meurt beaucoup. Deuxièmement, sur l'affaire Epstein, là, précisément, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il y a de très lourdes défaillances publiques en France sur la question de la pédocriminalité. Parce que l'affaire Epstein est d'abord et avant tout une affaire de pédocriminalité avec des jeunes filles de 13 ans. Pas se dire l'affaire Epstein, c'est des milliardaires qui faisaient des partouzes avec des escortes et des mannequins. C'est ça, mais ce n'est pas que ça. Et si c'était que ça, il y aurait pas d'affaire Epstein. L'affaire Epstein, si on en parle, c'est parce que c'est une affaire de pédocriminalité avec aussi des jeunes filles de 13-14 ans. Voilà, c'est ça qui fait l'affaire Epstein. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle et c'est pour ça que c'est grave. Or, je constate qu'en France, il y a des défaillances publiques lourdes. On l'a vu. Sur l'affaire Liana, avec quand même le meurtrier qui était déjà impliqué dans des affaires de pédophilie.
Liana, ce sont des défaillances.
Bien sûr.
La question de savoir, c'est est-ce qu'il y a un réseau avec des gens qui protègent le réseau pour pas être mouillés.
Moi, j'aimerais aussi que également quand on pointe du doigt les défaillances ou le déni de justice, on se pose la question de toutes les défaillances publiques qu'il y a eu et également dans le cas du périscolaire parisien et avec la possibilité qui est évoquée par la justice de réseaux pédophiles à l'intérieur du périscolaire parisien. Et là aussi où il y a eu de graves défaillances. Et enfin, oui, dans le cas d'Epstein, on devrait se poser la question de toutes les ramifications qu'il y a, parce que c'était un homme de réseau et parce que la question se pose.
Parmi les questions qui se posent, c'est pourquoi, tu vois, Ghislaine Maxwell, qui est la seule condamnée, est toujours vivante pour le moment.
Maxwell, et qui prend un peu pour les autres aussi, quand même.
Elle prend sûrement pour
les autres.
Est-ce qu'elle peut ou est-ce qu'elle doit être entendue dans le volet français?
Ça paraîtrait normal.
Joël Dagosséry.
Moi, je ne sais pas ce que la justice fait, mais j'ai quand même senti qu'il y avait une sorte de paresse, voire même un manque de volonté.
Non, on ne pouvait pas dire
Si,
il y avait 1,5 million de documents qui sont transmis par les autorités américaines qui ont dû être analysés. 1,5 million, ça ne se fait pas. Il y a eu des dizaines d'enquêteurs mobilisés. Pardon,
dans la façon de parler de l'affaire, publiquement, on nous donnait l'impression que c'était une affaire uniquement américaine.
C'est un dossier américain. Affaire internationale.
Alors que c'est une affaire internationale.
Avec une sorte
d'annexe à Paris, avec son appartement qu'il avait avenue Foch, dont il se servait apparemment pour assouvir ses désirs pédocriminels et sexuels. Il avait des rabatteurs en France. Donc c'est une affaire aussi très française.
Une affaire très française.
Et la seule chose dont on a traité, en tout cas publiquement et même dans les médias sur cette affaire, c'était Jack Lang. Voilà, Jack Lang, qui avec sa fille, sa fille, etc. Et puis basta. Non, je rappelle que dans
il y a eu des conséquences importantes pour Jack Lang.
Oui, j'entends bien. Mais je veux dire,
il n'y a pas que Jack Lang. Il y a d'autres gens.
Ce monsieur était un monsieur de réseau, de système, de quelque chose de très organisé. Donc j'imagine que c'est pas juste.
On cache quelque chose ou pas?
Oui, mais je pense qu'on cache quelque chose. D'autant plus que dans ce dossier, il y a une branche pédocriminel, comme l'a très bien dit Jean-Loup.
Bah oui,
mais on a aussi une petite branche un peu politique, d'ingérence politique. D'ailleurs, en Angleterre, des têtes sont tombées. Voilà. Donc, demande jusqu'où ça va aussi au niveau de la France. Et donc, oui, je trouve qu'il y a une sorte de paresse, de quelque chose d'assez léger dans la façon d'aborder cette affaire.
Ou pas. À suivre, notamment, puisque Sandrine, elle est partie prenante dans l'histoire. Allez, dans un instant, la troisième heure des GG, il sera question d'immigration et de pourboire électronique. Est-ce qu'on nous force la main? Reste avec nous, à tout de suite au 32-16.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.